Vous écoutez Radio France Internationale, il est 2h ici à Paris, 1h en temps universel.
Gali Bonin.
À la une de l'actualité, en Syrie, la fin des opérations militaires sur le littoral laisse un lourd bilan. Plus de 1500 morts, les deux tiers étaient des civils. Cette première grande répression contre des fidèles du régime de Bachar al-Assad inquiète le gouvernement français. Vous l'entendrez dans ce journal. Importante séance de négociation dans le Golfe cette semaine. Au Qatar, les Israéliens négocient la poursuite du cessez-le-feu avec le Hamas. Et en Arabie Saoudite, le président ukrainien s'apprête à dévoiler une proposition de trêve partielle dans sa guerre contre la Russie. 30 ans après les guerres dans les Balkans, de nouvelles tensions en Bosnie-Herzégovine. Le dirigeant de la région serbe du pays menace de faire sécession. Le secrétaire général de l'OTAN est intervenu ce lundi. Et les stades du Kenya seront-ils prêts à temps pour la CHAN et la CAN? À quelques mois des compétitions, l'auditrice générale alerte sur plusieurs irrégularités dans la réfection des enceintes sportives. Après des jours de violence, Damas a annoncé la fin de son opération sur la côte syrienne. À Latakia et Tartous, les affrontements entre forces gouvernementales et groupes armés pro-Bachar al-Assad ont déjà fait plus de 1000 morts civiles. Bilan dressé par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le compte-rendu de notre correspondant sur place, Mohamed Erami.
La Syrie a connu ces derniers jours les pires violences depuis la chute de l'ancien président Bachar al-Assad. Mais pour le ministère de la Défense, l'opération militaire dans les villes et villages de la côte syrienne est un succès. Les autorités estiment avoir atteint tous leurs objectifs. Les combattants fidèles au régime précédent ont bien été éloignés des centres urbains et des institutions publiques vitales, a déclaré le porte-parole du ministre de la Défense, Hassan Abdelrani. En réponse à l'émoi suscité par les massacres documentés par des témoins et des organisations indépendantes, le président syrien Ahmed al-Shara a confirmé que toute personne impliquée dans ces violations, quel que soit son niveau de proximité avec le pouvoir, devra répondre de ses actes. Le gouvernement dit travailler au rétablissement rapide de la sécurité et la stabilité afin que les civils puissent retourner au plus vite chez eux dans les régions de Latakia et Tartous. En revanche, il n'a toujours pas fourni le bilan exact du nombre de victimes. Le Centre syrien pour les droits de l'homme a indiqué avoir réuni des informations sur des milliers de morts parmi les combattants et les civils. Les résidents de la côte que nous avons pu contacter font la même évaluation. D'après eux, des familles entières auraient été décimées. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Les massacres dans le nord-ouest visaient principalement des membres de la minorité chiite alaouite, celle à laquelle appartenait l'ancien président syrien Bachar al-Assad. En Europe, ce genre de répression inquiète. Écoutez à ce sujet le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
J'ai eu l'occasion hier, lorsque je l'ai eu au téléphone, d'exprimer au ministre des Affaires étrangères syrien notre très profonde préoccupation, notre condamnation des exactions qui ont visé les civils et notre appel à ce que les responsables de ces massacres soient jugés et punis pour que ces crimes ne restent pas impunis. C'est l'avenir de la Syrie qui est en jeu. Et nous ne voulons pas que la Syrie puisse retomber dans le chaos.
Au Proche-Orient toujours, l'armée israélienne affirme avoir mené des frappes aériennes dans la bande de Gaza malgré le fragile cessez-le-feu. L'état-major dit avoir visé des combattants qui enfouissaient des engins explosifs dans le sol à plus d'un endroit dans l'enclave palestinienne. Une série de frappes qui survient le jour même où débutaient des négociations indirectes au Qatar. Une délégation israélienne s'est rendue à Doha pour discuter de la poursuite de la trêve avec le Hamas mise en place le 19 janvier. Et dans le pays voisin, en Arabie Saoudite, d'autres négociations pour un autre conflit, celui entre l'Ukraine et la Russie. Le président ukrainien et le chef de la diplomatie américaine doivent se rencontrer mardi. Volodymyr Zelensky devrait soumettre un plan de cessez-le-feu partiel, une trêve aérienne et maritime qui est vue d'un bon œil par l'envoyé de Washington, Marco Rubio. Ce sera la première rencontre entre des officiels ukrainiens et américains depuis la visite désastreuse de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Depuis, les États-Unis ont suspendu leurs aides militaires et le partage de renseignements américains avec Kiev. En Bosnie, la situation se crispe après les déclarations choc du dirigeant de l'entité serbe Milorad Dodik. Depuis la semaine dernière, la Republika Srpska ne reconnaît plus les autorités de police et de justice bosniaques sur son territoire, ce qui provoque une crise institutionnelle majeure. Dans ce contexte, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est rendu à Sarajevo pour appuyer le pouvoir central et dénoncer l'attitude du dirigeant de l'entité serbe. Écoutez sa déclaration à son arrivée en Bosnie-Herzégovine.
Toute action qui porte atteinte aux accords de Dayton, à l'ordre constitutionnel ou aux institutions nationales est inacceptable. La rhétorique et les actions incendiaires sont dangereuses. Elles constituent une menace directe pour la stabilité et la sécurité de la Bosnie-Herzégovine. Bien sûr, j'entends les inquiétudes concernant la situation en matière de sécurité. Mais soyons clairs, nous ne sommes pas en 1992 et nous ne laisserons pas un vide sécuritaire s'installer en Bosnie. La communauté internationale est présente et elle s'est engagée à continuer à apporter son soutien, notamment par l'intermédiaire de l'EUFOR et de l'OTAN. Nous ne permettrons pas que la paix durement gagnée soit mise en péril. L'OTAN continuera à vous soutenir sur la voie européenne et euro-atlantique sur laquelle vous avancez.
Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. En mer du Nord, un pétrolier et un porte-conteneurs sont entrés en collision, provoquant un important incendie. Une trentaine de membres d'équipage ont été blessés et évacués, mais un marin manque toujours à l'appel. L'ONG écologiste Greenpeace se dit extrêmement préoccupé par les risques environnementaux multiples. Un des réservoirs de kérosène du pétrolier a été percé et du carburant s'est déversé dans l'eau. Le porte-conteneurs transportait, lui, une importante cargaison de gaz inflammable et très toxique, du cyanure de sodium. Faire entrer Facebook en Chine, c'est un rêve de longue date de Mark Zuckerberg. Mais jusqu'où était-il prêt à aller pour le voir se réaliser? A-t-il vraiment proposé à Pékin de l'aider à censurer les voix dissidentes pour pouvoir s'installer en Chine? C'est ce qu'affirme une lanceuse d'alerte, ancienne employée de Meta, dans un livre qui doit sortir cette semaine, La correspondance à New York de Lubna Anaki.
Mark Zuckerberg n'a jamais caché son intérêt pour le marché chinois qu'il voit comme un marché hautement lucratif. Et pour le conquérir, il serait prêt à tout, selon Sarah Wynne Williams. L'ancienne directrice des politiques publiques mondiales de Meta sort un livre annoncé comme explosif. Document interne à l'appui, elle affirme que le patron de Facebook a au cours des années multiplié les tentatives pour convaincre le parti communiste chinois d'ouvrir la Chine à Facebook. Pour cela, explique Sarah Wynne Williams, Mark Zuckerberg aurait proposé à Pékin de lui donner accès aux données privées de ses utilisateurs chinois. Il aurait également travaillé sur des outils de censure, les présentant comme un moyen pour les autorités chinoises d'éliminer tout contenu critique. Et Sarah Wynne Williams affirme que le patron de Meta aurait même accepté de cibler les comptes Facebook de dissidents chinois vivant aux États-Unis. Parallèlement à la sortie de son livre, Sarah Wynne Williams a également saisi la SEC, la commission américaine des opérations boursières pour dénoncer ces pratiques en tant que lanceuse d'alerte. Lubna Anaki, New York, RFI.
Au Kenya, la réfection de plusieurs stades de football inquiète l'auditrice générale dans un rapport publié cette semaine. Elle pointe du doigt des irrégularités autour des infrastructures de la capitale Nairobi, une situation préoccupante alors que le Kenya doit accueillir la CHAN en août et la CAN l'année prochaine. Gaëlle Lalex.
C'est une véritable gabegie que révèle l'auditrice générale dans son dernier rapport. Elle concerne plusieurs stades notoires de Nairobi, comme l'ancien City Stadium, rebaptisé aujourd'hui Stade Jokadenge. Temple du football kényan, cette infrastructure n'a pas accueilli de compétition majeure depuis près de 10 ans. Sa réfection est lancée en août 2023, mais un an et demi plus tard, le projet est au point mort d'après l'auditrice générale. Le constructeur a abandonné le chantier après avoir perçu néanmoins la moitié des frais engagés, soit 41 millions de shillings, plus de 290 000 euros. Autre sujet de préoccupation, le stade de Dandora. Sa réfection a coûté 223 millions de shillings kényans, plus d'1,5 million d'euros. Malgré cela, sur place, l'auditrice générale a trouvé des projecteurs défectueux, aucun système d'éclairage intérieur et un terrain en pente avec des nids de poules. Les deux grands stades qui devront accueillir les compétitions de la CAF ne sont pas mentionnés dans le rapport, mais le Kenya avait promis une amélioration globale de ses infrastructures, dont notamment des terrains d'entraînement. En janvier, la CAF a annoncé le report du CHAN de février à août 2025, faute d'infrastructures aux standards internationaux. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal.